France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Celui qui régnait à Alexandrie, Ptolémée le deuxième, appelé le Philadelphe, était ami du bien et de la sagesse. Il prépara une bibliothèque et rassembla tous les livres qui existent sur la terre. Il écrivit une lettre et s'acquit le zèle de tous les rois de la terre, de tous les potentats et les lettrés qui relevaient de son pouvoir, pour qu'il ne se soustrait point à lui acquérir tous les livres scientifiques, artistiques, philosophiques et quelques autres livres que ce soit.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. La fascination qu'elle provoque a parcouru les âges. La bibliothèque d'Alexandrie, qui naquit et qui rayonna en Égypte voici plus de 2 millénaires, a laissé dans la mémoire une trace indélébile. Elle incarna en effet une prodigieuse ambition: recueillir, préserver, donner à connaître tous les savoirs du monde, ceux en tout cas auxquels il était possible alors d'accéder, de n'offrir rien de moins qu'un miroir de l'univers. Ptolémée, l'un des généraux d'Alexandre, fondateur d'une dynastie nouvelle après le temps des pharaons, en concrétisa l'ambition et sa descendance la prolongea. Il appuya son entreprise gigantesque sur 3 convictions. Celle qu'il était loisible de triompher de la dispersion des multiples centres de la science, de la littérature, de la philosophie, de l'histoire, pour en rassembler tous les fruits en un lieu privilégié. Celle ensuite que l'influence d'un pays pouvait se fonder sur le rayonnement de la culture tout autant que sur la puissance des armes ou les énergies du commerce. Celle enfin qu'il fallait arracher la lecture à la seule catégorie des savants, au seul cercle des lettrés, en l'offrant à un large public. L'institution magnifique rayonna durant plusieurs siècles, puis elle disparut. Ce fut lentement, même si le mythe voudrait que des flammes l'aient fait s'effacer d'un seul coup. La journaliste et documentariste Claudine Letourneur-Dizon, passionnée d'égyptologie, mon invitée, restitue cette chronique dans un très beau livre, très prenant. Et elle va nous conduire, pour finir, vers une idée originale, celle d'une ressemblance éventuelle avec ce que permettent désormais les nouvelles technologies pour le partage des connaissances, les distances ne s'effaçant plus désormais en termes géographiques, mais par l'agrégat de communautés multiples selon des rapprochements virtuels. Et nous nous demanderons si une pareille concordance des temps peut prouver sa validité.
Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première impression fut d'un bonheur extravagant. Les hommes se sentaient maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'existait quelque part, dans quelque hexagone. L'univers se trouvait justifié, l'univers conquérait brusquement les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, il fut beaucoup parlé des justifications, livres d'apologie et de prophétie qui justifiaient à jamais les actes de tout homme au monde et réservaient à son avenir de prodigieux secrets. La certitude que tout est écrit les annule ou fait d'eux des fantômes. Je connais des districts où des jeunes gens se prosternent devant les livres et en baisent barbarement les pages, mais ils ne savent déchiffrer une seule lettre. Les épidémies, les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage ont décimé la population. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine, la seule qui soit, est près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque se perpétuera, éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutiles, incorruptibles, secrets.
Claudine Le Tourneur, disons bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer un extrait de un texte très fameux de Borges qui remonte à 1941, La bibliothèque de Babel. Il est ici lu par le magnifique Jean Topard dans Les entretiens avec de Georges Charbonnier le 1er février 1965. Est-ce que vous agréez ce choix pour ouvrir notre conversation?
Ah oui, je le trouve très bien, surtout que je cite de nombreuses fois Borges dans mon livre et que c'était pour moi une référence fondamentale parce que sa bibliothèque de Babel est je dirais pas se rapproche de la bibliothèque d'Alexandrie, mais je trouvais qu'il y avait un lien quand même entre les deux et la façon dont Borges l'aborde est absolument fabuleuse.
Il imagine un très vieux bibliothécaire accablé par le temps et en même temps continuant de porter une espérance.
Absolument, oui, oui, tout à fait. C'est l'espérance qu'on pouvait trouver dans la bibliothèque d'Alexandrie quand elle a été créée, effectivement.
Une ambition qui est vraiment presque démesurée et magnifique, splendide. C'est ça que vous montrez très bien dans votre ouvrage.
Quand je me suis plongée dans ce sujet, ce qui m'a vraiment touchée, et j'en avais pas forcément conscience véritablement quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était vraiment la première fois dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité, qu'un homme, Ptolémée Ier, a eu l'idée, enfin la conviction profonde qu'il fallait préserver tous les savoirs et qu'il a imposé son pouvoir non pas sur les armes, sur les guerres et sur les conquêtes, comme l'avait fait Alexandre le Grand, qui a tout détruit, et laissé des fleuves de sang derrière son passage, mais Ptolémée a eu l'idée de véritablement baser son pouvoir sur la connaissance, et a compris à ce moment-là combien la mémoire donnait de pouvoir, et c'était quelque chose de fondamental, qu'il réussit à mettre en place, à initier cette fabuleuse maison dans laquelle il a voulu réunir tous les savoirs et toute la créativité intellectuelle humaine.
Ptolémée va être le héros principal de notre conversation, entouré d'ailleurs d'un petit groupe d'hommes également remarquables qu'il
Absolument.
A su agréger à son projet. Mais j'étais très sensible au fait du contraste que vous marquez entre précisément Alexandre le Grand, mais destructeur, et Ptolémée, le constructeur.
Oui, pour moi, ça a été frappant. Déjà, de me rendre compte que le mythe d'Alexandre le Grand, celui qui veut conquérir un empire universaliste, en fait, à travers ses 10 ans de combat pour atteindre l'Indus, c'est plutôt 10 ans de destruction, de saccage. Bon, il a détruit Persépolis, il a détruit toute la grande bibliothèque de Persépolis, il a massacré beaucoup de populations, et tout ça pour arriver à revenir et mourir à Babylone sans avoir laissé derrière lui autre chose que de la destruction et du sang. Et Ptolémée, qui était son général et en même temps son ami, avait compris que c'était uniquement sur l'Égypte qu'il pouvait s'établir et essayer d'imposer un pouvoir, et que sans doute assez traumatisé peut-être par tout ce qu'il avait vécu auprès d'Alexandre pendant 10 ans, il a pris le biais complètement inverse. Il faut savoir aussi que les deux hommes étaient tous les deux des disciples d'Aristote, qu'ils avaient reçu la même éducation et que, autant Alexandre n'en a pas véritablement profité ou l'a pas mis à l'honneur, mais en revenant et en s'installant sur la ville initiée par Alexandre avant de partir guerroyer, cette ville d'Alexandrie que Ptolémée va véritablement développer et construire, il veut en faire véritablement le miroir de l'univers et il va très bien y parvenir.
Et c'est le fondateur de la dynastie des Lagides. Et il y aura au moins un fils et un petit-fils qui poursuivront son œuvre. Ce que vous montrez très très bien, c'est que cette recherche qui est la vôtre et cette vérité plus solide que vous proposez après un certain nombre de siècles de légendes sur la brio et la destruction de la bibliothèque s'explique, se fonde sur des fouilles qui ont été très, très importantes. Il faut commencer par dire un mot sur ce qui a permis que Alexandrie renaisse dans la connaissance des savants et la curiosité générale. Et pour ça, je vais donner la parole à Jean-Yves Empereur, qui a été le grand, qui est toujours le grand spécialiste de ces fouilles et qui a beaucoup contribué à restituer cette Alexandrie d'autrefois. Je l'avais reçu il y a plus de 20 ans dans cette émission. Je vais vous donner un extrait de ce qu'il nous disait à l'époque en marquant un certain paradoxe. La reconstruction, l'évolution de nouvelle Alexandrie a permis de faire des fouilles et en même temps la promptitude des promoteurs en a rabattu les possibilités temporelles. Écoutez donc, Jean-Yves L'Empereur, 2004.
C'est un paradoxe. Nous sommes actuellement à la traîne, à la suite des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de projets immobiliers, il n'y aurait pas de fouilles. Les projets immobiliers vont très vite. Les bulldozers vont trop vite pour les archéologues. Et puis après, eh bien, on continue le projet immobilier. Et donc à chaque fois, c'est une course contre la montre. Ces fouilles de sauvetage urbain forment une spécialité vraiment particulière de l'archéologie. Alexandrie est la seule grande ville antique sur laquelle il y a une grande mégapole moderne. Ce n'est nulle part ailleurs. Le Caire, par exemple, s'est déplacé. Entre Fostat, le Caire Fatimide, le Caire du XIXe siècle, eh bien, il y a un déplacement. Quand on construit le métro du Caire, eh bien, on n'a pas de surprise dans le sous-sol. En revanche, Alexandrie, eh bien, dès que l'on creuse, on est sûr d'y trouver quelque chose. Et c'est là un problème pour cette expansion urbaine d'une ville très vivante, où chaque fois, eh bien, elle est freinée par son passé. Et malheureusement, on n'a pas toujours trouvé l'équilibre souhaitable entre la préservation, la mise en valeur d'un patrimoine qui peut représenter également un vecteur économique. Il y a de plus en plus de touristes à Alexandrie. Et le développement de la mégapole moderne.
Jean-Yves Empereur aussi a contribué à améliorer la connaissance de Pharos, la fameuse tour qui était une des merveilles du monde dont vous parlez dans votre livre, Claudine Le Tourneur, disons.
Oui, j'en parle évidemment parce que c'est aussi l'initiative de Ptolémée Ier.
Votre grand homme.
Voilà, oui, absolument, c'est un très très grand homme et un grand sage peut-être aussi. Et c'est lui aussi qui a initié cette septième merveille du monde, qui est le phare d'Alexandrie, qui a malheureusement disparu au XIVe siècle dans un tremblement de terre. Il avait déjà été pas mal délaissé, mais c'est lui qui initie cette tour parce qu'en fait, il développe énormément le port commercial, parce que il y avait la bibliothèque, bien sûr, mais il y a aussi un grand développement dans cette ville commerciale, et ce port va générer énormément de bateaux qui vont venir. Seulement, le port est très dangereux, et donc il se dit que pour éviter les drames des bateaux qui vont arriver ou qui repartent, il faut un éclairage. Il demande à un architecte de construire cette tour qui, paraît-il, était en marbre blanc, qui était extraordinairement belle et au sommet de laquelle, effectivement, il y avait des feux qui permettaient aux navires de voir et d'approcher en toute sérénité le port d'Alexandrie. Mais malheureusement, il ne l'a pas vu achever. C'est son fils, Ptolémée II, qui va achever le phare. Mais c'était une initiative du père, oui.
On en trouve des traces aujourd'hui dans l'eau. Oui. Jean-Yves Empereur a développé l'archéologie sous-marine.
On lui doit beaucoup à Jean-Yves Empereur. En tout cas, la ville d'Alexandrie et l'histoire d'Alexandrie lui doivent beaucoup parce que grâce à ses fouilles, grâce à sa persévérance, parce que ça n'a pas toujours été très facile de convaincre les autorités et les autorités locales de pouvoir accéder à ses demandes. Et quand il a initié effectivement l'archéologie sous-marine et de pouvoir fouiller dans le périmètre du phare, il a fait des découvertes. En tout cas, il a trouvé des morceaux de ce qu'on peut appeler effectivement le phare d'Alexandrie.
Alors venons-en maintenant tout directement à ce que pouvait être cette ville qui a accueilli la bibliothèque par la volonté d'un seul et par la conviction de ses descendants aussi, qui en a perpétué la grandeur et la noblesse et l'ambition. Cette Alexandrie telle qu'elle était, et au centre duquel est cette bibliothèque, il faut aussi qu'avant toute chose, nous en restituions l'ambiance. Cette causerie d'un professeur à la Sorbonne qui s'appelait Paul Lemerle, et qui a été un très grand professeur. J'ai eu le privilège de l'entendre quand il enseignait à la Sorbonne. Il parle dans une causerie en 1950 de ce qu'était la ville à ce moment-là. Et vous nous direz ensuite, Claudine Le Tourneur, disons, si cette description vous paraît fidèle à l'idée que vous faites de la ville splendide.
Strabon nous a laissé une description précise de l'immense et merveilleuse capitale. Le site très particulier qu'avait choisi Alexandre en commandait la disposition. près de l'extrémité de la branche canopique du Nil, une longue bande de sable séparait le lac Maréotis de la mer en face de la petite île côtière de Pharos. Le lac formait un vaste bassin naturel où les barques fluviales venues du Nil avaient la place de se grouper. Quant à l'île de Pharos, elle fut reliée au rivage par une digue longue de 7 stades, un peu plus d'un kilomètre, appelée pour cette raison l'Heptastadion, ce qui donna naissance à deux ports bien abrités. La ville elle-même était construite entre les deux ports et le lac Maréotis. Son périmètre pouvait mesurer une quinzaine de kilomètres, ce qui était considérable pour une ville antique. Elle fut bâtie sur les plans de l'ingénieur Dinocrates de Rhodes, puis les travaux continuèrent sous la direction de Sostratos de Cnide, qui fut notamment l'architecte du célèbre phare destiné à guider les navires vers le port. Dinocrates avait adopté le plan géométrique, dit en damier, que l'architecte Hippodamos de Milet avait appliqué plusieurs fois au IVe siècle, notamment au Pirée, et qui n'est pas sans annoncer de longs siècles à l'avance le plan analogue de certaines villes américaines d'aujourd'hui. Deux rues principales, rectilignes, se coupaient à angle droit, déterminant quatre quartiers principaux. Et ce centre de la ville formait une place vaste et monumentale.
Il est important de rappeler dans quelles circonstances cette ville a été construite, décidée, en marge de l'Égypte traditionnelle.
On le doit à la création, on le doit à Alexandre le Grand, évidemment, qui, en descendant de la Macédoine et en venant s'installer sur l'Égypte, enfin, il a même pas eu besoin de guerroyer pour s'installer sur l'Égypte, puisque en chassant les Perses qui étaient là depuis plusieurs siècles et qui étaient très cruels, les Égyptiens l'ont accueilli à bras ouverts, donc tout s'est très bien passé pour lui. Et donc en arrivant sur cette côte, il voit un lieu qui lui rappelle en fait le texte d'Homère, parce qu'Alexandre le Grand, d'après ce qu'on a pu savoir, était un lecteur fou de l'Iliade en particulier. Il s'est dit inspiré par Homère en voyant cette île qu'il appelait l'île de Pharos, où dans l'Iliade, plutôt dans l'Odyssée même, il y aurait eu un passage où un des héros de l'Odyssée se serait réfugié pendant quelque temps sur cette île. Et donc, dans un rêve où il voit Homère lui parler, Alexandre se dit « ben voilà, c'est là ». Qu'il faut que je crée une ville.
Fameux rêve fondateur de 331.
Voilà, exactement. C'est en 331 avant notre ère. Et donc, dans l'histoire ou dans le mythe, en tout cas, on dit qu'il a acheté son manteau sur le sable et que c'est de là qu'est née la forme particulière de cette ville. C'est effectivement lui qui l'a initiée, mais il l'a jamais vue achevée, il l'a jamais vue construite, puisque quand il quitte l'Égypte après s'être fait adouber Pharaon à Memphis, il part guerroyer pendant 10 ans et il ne revient jamais.
Claudine Le Tourneur, disons, venons-en à la naissance de cette bibliothèque au centre du projet civilisateur de votre grand Ptolémée Sautère, le premier Ptolémée.
Il initie beaucoup toute la construction de cette ville et bien sûr de la bibliothèque, mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la bibliothèque était à l'intérieur d'un musée. C'était d'abord... La construction était la maison des neuf muses, dans laquelle il y avait effectivement des laboratoires, il y avait des jardins, il y avait des centres de recherche. Et la bibliothèque vient s'implanter, en quelque sorte, dans cette maison des muses. C'est un endroit où, finalement, Ptolémée se dit... Il va faire venir tous les savants, les grands savants du monde connu, parce qu'il veut non seulement préserver les savoirs, non seulement les restaurer, mais aussi il souhaite que tous ces savoirs s'auto-alimentent. Et ça aussi, c'est quelque chose de prodigieux. C'est-à-dire, on est là pour travailler, on est là pour initier de nouveaux savoirs, mais en même temps, il faut que tout ça se partage et s'enrichisse. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est l'idée d'avoir conçu des armées de copistes. Parce que les papyrus, il faut remettre à l'époque, ce sont des papyrus qui sont extrêmement fragiles.
Ils se présentent comme des rouleaux.
Et ce sont des rouleaux, effectivement, qui sont très difficiles à lire, en fait, puisqu'il faut les dérouler, il faut les renrouler. Et les textes sont partagés en plusieurs rouleaux, donc...
Sans coupure, d'ailleurs, là, comme une espèce de logorée.
Voilà, effectivement, il n'y a pas de paragraphe. En fait, il y a une espèce de grande logorée, c'est très difficile à lire.
Il y a eu combien de livres au total ?
On dit qu'il y avait peut-être 500 000 rouleaux de papyrus.
Après, c'est pas encore les codex qui
vont arriver. Les codex vont arriver avec les Romains, et effectivement, ça sera une lecture beaucoup plus simple.
Une sorte de livre.
Et ce sont quasiment déjà des livres, effectivement. Donc, il faut préserver tous ces textes. Alors, d'abord pour la bibliothèque, puisqu'il faut éviter que tous ces textes disparaissent au fur et à mesure de la fragilité des papyrus. Mais la deuxième raison pour laquelle on fait des copies à n'en plus finir, c'est qu'il faut que ces textes voyagent, que la connaissance voyage. Et ça, c'est une des idées fondamentales. Et c'est pour cette raison, quand on dit que la bibliothèque a brûlé et que tous les savoirs du monde ont brûlé, non. Non, parce que déjà, à l'époque de Ptolémée, il y avait des bateaux entiers qui partaient avec des copies. Et qui étaient, toutes ces copies étaient, évidemment, c'était du commerce. Ces livres étaient vendus et partaient à travers les pays méditerranéens de tout cet univers qu'on appelait l'univers connu à l'époque.
Ce qui d'ailleurs explique qu'un certain nombre de ces textes aient été sauvegardés en dépit de la déconfiture finale d'Alexandrie. Nous avons traité de cette question, la survie des manuscrits antiques, récemment dans une émission avec Maurice Sartre, à laquelle je renvoie. Il y a un grand personnage à côté de votre souverain, Ptolémée, que celui-ci a le grand mérite de susciter et d'associer à son projet.
Oui, c'est un personnage assez haut en couleur, qui s'appelle Démétrios de Phalère, qui a été pendant 10 ans le gouverneur d'Athènes, avant de se faire chasser, parce qu'il avait des mœurs un peu particulières. Et donc, les Athéniens le chassent, et il trouve refuge en Égypte. Et puis, après un certain nombre d'années d'exil dans le sud de l'Égypte, il revient sur Alexandrie en se disant que peut-être, là, il va pouvoir trouver une manière de poursuivre sa trajectoire. Il est philosophe quand même. Hein. Il a été lui aussi un élève d'Aristote. Et donc, il est accueilli comme à bras ouverts par Ptolémée. Il sort d'un exil terrible et il revient comme un adoubé, là, comme le créateur de la bibliothèque. C'est-à-dire que les deux hommes, grâce à leur savoir aussi, grâce à leur formation commune auprès d'Aristote, se disent il faut absolument développer cette bibliothèque, l'initier, et Démétrios de Phalère va être vraiment celui qui va s'occuper de la construction, celui qui va initier toute la réglementation de ce grand musée et en particulier de la bibliothèque, c'est lui qui va définir qu'il faut un bibliothécaire. À l'époque, le bibliothécaire, c'est le directeur de la bibliothèque. Donc, c'est lui qui gère aussi tous les textes qui arrivent, la sélection des textes, les copies. Donc, il a fait un travail absolument remarquable, Démétrios de Phalère.
Cette ambition se manifeste, comme vous le disiez, par une sorte d'aspiration de tout ce que l'Occident de l'époque peut contenir de textes. Le roi et son bibliothécaire veulent tous les savoirs du monde et ils procèdent de toutes sortes de façons, d'ailleurs parfois presque kleptomanes.
Rien ne les arrête. Hein. Donc c'est une fois que l'idée est lancée, là on met tout en œuvre pour s'approprier de gré ou de force les savoirs et toute la créativité humaine en fait.
Comment fait-on concrètement ?
La première chose que fait Ptolémée, il décrit d'abord à tous les souverains du monde pour leur dire envoyez-moi tous les livres que vous avez, enfin tout, que ce soit la poésie, de la philosophie, des sciences, n'importe quoi. Enfin, vous nous envoyez tout ça, on fait des copies on vous renverra vos originaux. Il y a peu de souverains qui ont accepté parce qu'ils ont senti quand même qu'il y avait anguille sous roche en se disant mais qu'est-ce que c'est, pourquoi on nous réclame tout ça,
et
ils
ont une caution en général. Mais
ah oui, alors il y a eu aussi à l'époque de Ptolémée III le petit-fils qui lui réclame donc toutes les œuvres théâtrales des grands écrivains grecs. Il donne une caution parce que Athènes ne laisse pas partir comme ça les œuvres de Sophocle ou d'Euripide, donc il est obligé de verser une très lourde caution, mais quand les œuvres arrivent et sont recopiées, eh bien, ils gardent évidemment les originaux et ils renvoient les copies et il perd sa caution, mais en même temps, pour lui, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir les textes originaux. Ils gardaient toujours les originaux parce qu'ils avaient peur que dans les copies, il y ait des erreurs de copie, que ça dénature un peu les œuvres. Donc, ils gardaient toujours les originaux.
Mais n'empêche qu'ils ont fait aussi des copies très précieuses, je pense, celle de la fameuse affaire des Septantres. Racontez-nous ça.
Ça, c'est aussi Démétrios de Faller qui initie les premières traductions. Parce qu'il faut comprendre qu'au départ, c'était la langue grecque qui dominait toutes les autres. Pour les Grecs, tout le monde autour d'eux était un monde barbare, sauf l'Égypte, dans laquelle ils avaient beaucoup puisé pour leur propre savoir et pour leur propre formation. Mais donc, c'est Démétrios de Faller qui arrive à convaincre Ptolémée Ier qu'il faut, si on veut s'enrichir et élargir ses connaissances, il faut aussi faire des traductions et accepter les textes qui sont pas en grec. Et la première traduction qu'il veut initier, c'est qu'il y a une grande communauté juive à Alexandrie. Et ça, c'est extrêmement important, parce que cette communauté juive est là depuis longtemps. Eh bien, ils ont perdu le rapport avec leurs textes originaux en hébreu, et donc ils parlent tous grec. Cette communauté a d'autant plus d'importance qu'elle a participé énormément à la richesse d'Alexandrie. C'est eux qui ont beaucoup développé le commerce, et ils ont, sous les trois Ptolémées, pendant près de plus d'un siècle, les Juifs d'Alexandrie ont vécu dans une totale harmonie avec les Grecs et les Égyptiens. Et ça, c'est une période pour le peuple juif de sérénité où ils étaient libres de pratiquer leur religion en toute liberté.
D'où l'intérêt de traduire et de faire traduire l'Ancien Testament par une petite pléiade de vieillards que l'on met au travail un peu par force.
Là encore, c'est un peu la légende.
Ah bon ?
Mais
si belle.
Oui, elle est très belle, mais on peut la garder, effectivement. Mais de toute façon, il y a eu une traduction, mais on pense que la traduction s'est faite sur un certain temps. On peut parler presque d'un siècle. Mais grâce aussi à la bibliothèque d'Alexandrie, cette traduction a eu lieu dans la bibliothèque. Et effectivement.
Pourquoi les Septantes ?
Parce qu'on a fait venir 72 sages, qu'on a fait venir de Jérusalem pour traduire tous les textes de la Bible hébraïque. Et on dit qu'ils l'ont fait en 70 jours et que ce texte a pu donc être sous l'œil vigilant des Ptolémées. Et à l'époque, c'est Ptolémée II, donc le fils, qui gère la venue de ces 72 sages. Cette traduction a donné la possibilité à toute cette population juive d'Alexandrie, qui avait perdu un peu le rapport avec ses propres textes religieux, de pouvoir avoir accès à la Bible hébraïque, effectivement. Ah,
spécialement le goût de l'évoquer aujourd'hui. À côté de la bibliothèque, soit créé tout un univers intellectuel, une rencontre avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des résidences d'intellectuels. C'est très important, ça explique la vitalité, ça explique aussi parfois une atmosphère un peu délétère, de jalousie. Vous parlez d'entre eux en disant « sa blessure d'amour-propre s'enlise dans le puits sans fond d'une jalousie morbide ». Je vous cite.
Oui, absolument, c'est Callimaque. Callimaque qui est un des... C'est un poète, il vient de Cyrénaïque, et en fait il arrive à Alexandrie, il rêve d'Alexandrie, il rêve de gloire et de reconnaissance, puisqu'il est poète. Et là aussi, par un concours extraordinaire de circonstances, après avoir écrit des poèmes sur Ptolémée Ier et sur son épouse, il est recruté par Ptolémée II pour rentrer dans la bibliothèque. Et alors Callimaque sera celui qui va organiser cette bibliothèque, parce que les manuscrits, les livres, les papyrus, en fait, arrivent par nombre incroyable. Il y a des copies qui se font à n'en plus finir, mais tout ça est dans une pagaille totale. Et donc c'est Callimaque qui va véritablement le premier initier ce que vont être nos véritables bibliothèques aujourd'hui.
C'est comme un lieu de culture aujourd'hui.
Un lieu de culture.
Pas seulement une collection. C'est tout.
Voilà, il faut d'abord ranger les textes, il faut les répertorier, il faut ranger les auteurs par ordre alphabétique, il faut ranger les sujets par thème. En fait, il fait un travail colossal dans cette bibliothèque. Il va être celui qui, arrivant à Alexandrie avec 3 sous en poche, devient tout d'un coup un pédant extraordinaire qui va régir la bibliothèque et mettre tout le monde sous sa coupe avec beaucoup de pédanterie parce qu'il se pense au-dessus de tous. Et c'est effectivement à ce moment-là que je parle de cette cage aux muses dont parle un poète qui s'appelle Timon.
Ah oui, alors je vous arrête pour le citer parce que c'est magnifique. Oui. Effectivement, si on imagine tous ces gens qui sont rassemblés, les grammairiens, les mathématiciens, les astronomes, les géographes et même des historiens qui sont rassemblés. Timon, donc, qui est un poète en effet satirique, dit « Dans la populeuse terre d'Égypte sont élevés des scribouillards livresques ». Ces échalas érudits qui échangent éternellement des coups de bec dans la cage des muses.
On retrouve ça partout, je pense, au fil des siècles, et aujourd'hui certainement encore d'une façon très très présente, ce combat des intelligences et des savoirs.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Il y a un domaine où la bibliothèque, Claudine Letourneur, disons, votre chère bibliothèque d'Alexandrie, brille particulièrement, c'est le domaine de l'astronomie. Il y a Ératosthène, dont le nom mérite d'être célébré.
Oui, bien sûr, Ératosthène, le génie parmi les génies, qui était capable de passer d'un sujet à l'autre, qui a été géographe, qui a été mathématicien, physicien, et qui a beaucoup étudié effectivement l'astronomie. C'est lui qui, avec des moyens extrêmement rudimentaires, a quand même réussi à calculer la circonférence de la Terre. Et ça, c'est fabuleux quand on voit avec quels moyens il a et quelle précision il est parvenu à ce moment-là.
Enfin, les choses ne progressent pas de façon linéaire parce qu'à l'époque, déjà, on refuse l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre.
Oui, alors ça, c'est aussi une chose que j'essayais de bien mettre en avant dans mon livre. C'est toute cette partie à partir du 6e siècle de notre ère, quand ces grands esprits comme Thalès, Pythagore, Démocrite, Leucippe, tous ces gens qui ont été se former en Égypte, parce que il faut bien remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que tous ces grands savants avaient bien compris combien l'Égypte pouvait être un puissant fond de connaissances et que ce pays était bien plus ancien que la Grèce et qu'ils se considéraient comme des enfants par rapport à l'Égypte.
Une modestie qui n'a été que progressivement efficace.
Voilà. Et donc, effectivement, au 6e siècle, en fait, on bascule. Le 6e siècle avant notre ère est quand même une période extraordinaire dans l'évolution de l'humanité, qu'on a l'impression que l'humanité passe de l'enfance à l'adolescence parce qu'il y a tous ces grands esprits que je viens de citer, mais il n'y a pas qu'en Grèce, il y a aussi, c'est l'époque de Bouddha, de Confucius, de Lao Tzu, et ils n'ont aucun lien véritable entre eux, mais ils naissent à la même époque, au 6e siècle avant notre ère. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'école ionienne créée par Thalès et qu'on passe...
Mathématicien.
Un grand mathématicien. Et qu'on passe, pour la première fois, que la pensée rationnelle émerge des songes mythologiques. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Soudain, les hommes se mettent à regarder ce qui se passe autour d'eux. Et en se débarrassant de tous les mythes et de tous les dieux, ils regardent la nature et ils essayent de la comprendre. Et donc, dans ces personnages, il y a Aristarque de Samos, qui est un peu plus tardif. Lui, il est au 2e ou 3e siècle, avant notre ère, bien sûr. Et lui, par des calculs tout aussi géométriques, il arrive à calculer que le Soleil est 20 fois plus gros que la Terre. On découvrira après que le Soleil est au moins 100 fois plus gros que la Terre. Mais c'était un début. Et il en déduit que ce n'est pas possible que ce soit le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais vu les proportions, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, c'est à ce moment-là que naît véritablement l'héliocentrisme.
On voit du coup la profondeur du déclin intellectuel qu'ont présenté les siècles ultérieurs.
Absolument.
Ça protège contre l'idée d'une histoire linéaire.
Absolument, mais c'est pour ça qu'il faut attendre ensuite le 15e siècle pour que Copernic, Kepler reprennent les calculs de Pythagore pour en déduire qu'effectivement on est bien dans un système héliocentrique.
Dans la vision universelle qu'est celle de la bibliothèque d'Alexandrie dont nous parlons ce matin, la langue grecque domine, mais du point de vue langagier, c'est aussi un lieu de centralisation de toutes sortes de parler de l'époque.
C'est pas seulement dans l'optique de la bibliothèque, c'est aussi dans l'optique d'Alexandrie. Cette ville est devenue le cœur de la première mondialisation des croyances et des savoirs. Et donc, énormément de gens venaient s'installer à Alexandrie. C'était une grande ville très cosmopolite et qui l'est restée pendant très longtemps, puisqu'on retrouve à l'époque de Nasser justement cette ville cosmopolite.
Dans les années 1950.
Dans les années 1950. Mais à Alexandrie, il y a une tolérance religieuse absolument extraordinaire. Il y a toutes les langues sont parlées. Il y a des populations qui se mixent. Cette ville devient véritablement ce que voulait Ptolémée Ier, c'est-à-dire le miroir du monde, le miroir de l'univers, et devient la plus grande capitale intellectuelle de tout le monde connu à l'époque. Donc, cette bibliothèque renfermait effectivement, au départ, c'était voulu par Ptolémée Ier, la langue grecque, qui était la langue la plus respectée, puisqu'on considérait que l'univers, tout le reste était un monde barbare, mais très vite, ils se rendent compte que pour ne serait-ce que pouvoir commercer et pouvoir avoir des rapports avec les autres pays et éventuellement les dominer, il faut avoir connaissance de leurs propres textes et entre autres de leurs propres textes religieux, parce que c'est important pour avoir du pouvoir sur une population, il faut comprendre sa religion. Et donc, effectivement, progressivement, ils font faire des traductions de tous ces textes qui sont emmagasinés et préserver la bibliothèque d'Alexandrie.
Il y a un autre aspect des choses, Claudine Le Tourneur, disons, qui est frappant, j'en disais un mot tout à l'heure, c'est le souci de ces souverains d'ouvrir, au-delà du cercle des savants, la connaissance que la bibliothèque peut porter. C'est, ça aussi, c'est assez, ça peut apparaître comme assez moderne.
Parce qu'en fait, c'est le petit-fils, Ptolémée III.
Ptolémée Vergète, d'ailleurs Vergète, ça veut dire qu'il fait le bien
voilà,
des gens,
absolument.
Du monde.
Et donc, il a fait effectivement le bien de la ville d'Alexandrie et de ses habitants, parce qu'il décrète que, oui, la bibliothèque, alors il faut rappeler que cette bibliothèque est la bibliothèque royale, c'est une bibliothèque où ne rentrent que les savants adoubés par les Ptolémées. Donc, c'est pas du tout ouvert au public.
Mais
alors, Ptolémée III se dit, mais il faut ouvrir maintenant, parce que il y a beaucoup d'écoles qui ont été créées, d'universités, se sont développées à Alexandrie, parallèlement à la bibliothèque. Et donc, il faut un lieu ouvert aussi d'accès à tous.
C'est très, très moderne.
Et c'est la première fois, là aussi, qu'on trouve dans l'histoire des hommes l'idée d'une bibliothèque, d'un lieu, une vaste agora ouverte à tous.
Ça me fait penser à la Bibliothèque nationale de France d'aujourd'hui, qui a tous ses départements réservés aux chercheurs et qui, d'autre part, dans la salle ovale prestigieuse de Richelieu, est maintenant accessible à un large public. Revenons donc à votre chère Vergète.
Eh bien, lui, il initie cette nouvelle bibliothèque qu'on va baptiser la bibliothèque fille par rapport à la bibliothèque mère, en fait. Et il va la créer dans le temple de Sérapis. Alors, le temple de Sérapis, qui était Sérapis? En fait, Ptolémée Ier, en arrivant, en s'implantant sur l'Égypte, finalement, il n'est pas particulièrement religieux ni croyant en quoi que ce soit, à part la connaissance et les savoirs qu'il veut mettre dans sa bibliothèque, mais il estime que on est quand même en Égypte, il ne faut pas l'oublier, et qu'il veut trouver un terrain d'entente religieux entre les Grecs et les Égyptiens, quand même, qui sont chez eux, et que finalement, la divinité qu'il va initier pour trouver un terrain d'entente entre les deux populations, c'est le dieu Sérapis. Donc, on crée le temple de Sérapis, et Ptolémée III et Vergète va créer donc dans ce temple une nouvelle bibliothèque et il va demander à Eratosthène, qui est alors le bibliothécaire en chef de la bibliothèque royale, d'aménager cette bibliothèque, de faire venir des textes et des livres, de remplir avec toutes les copies qu'ils ont faites depuis des années, de les transposer aussi à la bibliothèque fille, pour que tout le monde puisse venir là, qu'il y ait des rencontres entre les étudiants, entre la population, et que le savoir se diffuse, en fait. C'est toujours la même idée, c'est que le savoir se diffuse.
Bon, par exemple, il y avait très très peu de mathématiciens à l'époque, vous dites une douzaine, une quinzaine, et donc il faut que cette science se diffuse. Malheureusement, il faut que nous en venions, Claudine Letourneur, disons, au déclin de la bibliothèque, qui est entourée de pas mal de mythes, puisque pendant très longtemps, on a cru qu'elle avait brûlé d'un seul coup. Alors c'était épouvantable, brûler tous les savoirs du monde. On ne s'en étonnera pas, dans le fameux film Cléopâtre de Mankiewicz en 1963, Elizabeth Taylor incarnant Cléopâtre, qui était la descendante de cette dynastie lagide, on porte cette conviction dont vous allez nous dire, autant le révéler dès à présent, qu'elle est erronée, c'est-à-dire que tout aurait brûlé d'un coup. Mais écoutons d'abord Cléopâtre tel que revu par Mankiewicz.
Les Romains, ils ont incendié la flotte égyptienne. Venez voir l'incendie, il s'est étendu dans la cité.
La cité ?
Pas à toute la ville, à quelques maisons seulement, mais la bibliothèque est en feu.
Nous avons été contraints de brûler la flotte égyptienne.
Pourtant, en général, les navires sont dans les ports. Avez-vous été contraints de les brûler dans les rues de la cité ?
Des navires marchands ont pris feu. Les mâts, en brûlant, sont tombés sur quelques maisons.
Dont une était la grande bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, on vient de me le dire, j'en suis vraiment désolé.
Tais-toi du génie romain de la destruction. Démolis les pyramides, rase les cités. Comment oses-tu, toi et tous tes barbares, mettre le feu à ma bibliothèque? Tu peux jouer les conquérants tant que tu veux, puissant César. Viole, tue, pille, anéantis des millions de vies humaines. Mais ni toi, ni aucun autre de tes barbares n'a le droit de détruire une seule pensée humaine.
Je rappelle que c'était Rex Harrison dans le film original qui jouait Jules César, supposé avoir accompli ce crime. C'est Burton, sauf si je me trompe, jouait Marc-Antoine.
Oui, c'est ça, oui.
Donc ça, c'est la légende ramassée dans un film à grand succès.
Oui, et qui déforme bien l'histoire, en fait. Et c'est comme ça que naissent finalement les grands mythes, c'est quand on déforme complètement l'histoire et que
c'est intérieur au film, le mythe, pour être honnête.
Oui, bien sûr. Mais enfin là, on le renforce un peu.
Alors expliquez-nous ce qu'on a dit qui s'était passé et ce qui en réalité est arrivé.
Alors effectivement, quand César, qui s'est installé dans les palais royaux, en 48 avant notre ère.
Trois siècles après la fondation.
Trois siècles, effectivement, après la fondation, puisque la dynastie lagide règne pendant trois siècles. Et donc, en 48, donc César est installé à Alexandrie, et le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, veut le chasser de la ville. Et pour se défendre, César n'a pas d'autre moyen à ce moment-là que de mettre le feu aux bateaux égyptiens qui sont dans le port commercial. Et ça déclenche effectivement un très vaste incendie. Et on a décrété à ce moment-là, comme c'est très bien dit dans le film, que est parti dans les flammes non seulement les bateaux, mais aussi la grande bibliothèque d'Alexandrie. Or, si on reprend les textes qui ont été écrits après, et Strabon en particulier,
le grand Strabon, historien,
qui arrive à Alexandrie quelques années plus tard, il ne parle absolument pas de la bibliothèque qui est disparue dans les flammes. Par contre, il parle du musée et en fait une grande description. Et si la bibliothèque était dans le musée, forcément, elle n'a pas brûlé. Alors peut-être qu'effectivement, les bâtiments ont souffert, mais a priori, il n'y a pas de disparition. Et il n'y a aucun auteur postérieur qui ne parle d'une bibliothèque qui est partie dans les flammes.
Donc c'est pas une catastrophe soudaine, c'est un lent effacement.
C'est un lent effacement
dont il faut expliquer l'origine et les ressorts.
D'abord, la bibliothèque est une bibliothèque royale qui est financée par le pouvoir. Après les trois premiers Ptolémées, les suivants se désintéressent totalement de la bibliothèque qui va finir par péricliter, par manque d'argent, par manque de savants, par négligence, quoi. Elle n'est plus nourrie par un apport de livres.
C'est le temps de Ptolémée l'araignée, c'est moins beau que Ptolémée le sauveur ou Ptolémée qui aime
voilà,
sa sœur.
En fait, c'est le pire de tout, ça a été effectivement Ptolémée VIII qui, lui, a chassé tous les savants qui travaillaient dans la bibliothèque et a placé comme bibliothécaire, donc comme directeur de la bibliothèque, un de ses soldats, tout simplement. C'est un homme extrêmement cruel.
Il découpait plus ou moins son frère en morceaux.
Son fils.
Cette erreur généalogique.
C'est son fils, oui, il a trouvé le moyen de supprimer ainsi son fils. Enfin bref, c'est un horrible personnage, le plus horrible de tous les 14 Ptolémées qui ont régné pendant 300 ans. La dernière, celle qui finalement clôt la dynastie Lagide d'une manière extrêmement brillante, c'est Cléopâtre.
Justement, ensuite, comment s'est opérée cette progressive dilution de la bibliothèque ? Il faut évidemment prendre en compte l'arrivée des
Romains.
Des Romains, puis des musulmans.
Alors oui, mais les musulmans, c'est un peu plus tard.
Oui, mais... je n'ai pas sans le savoir.
Effectivement, les Romains sont déjà bien implantés. Ils ont constitué un très vaste empire déjà sur la Méditerranée. Et Octave Auguste, donc qui s'établit sur la ville après le suicide de Cléopâtre, lui ne détruit absolument pas la ville. Au contraire, les Romains ont été extrêmement impressionnés par Alexandrie. Ils ont beaucoup copié Alexandrie et particulièrement sa grande bibliothèque.
La Grèce les a toujours beaucoup impressionnés.
Oui, alors déjà, même et quand ils ont commencé à conquérir la Grèce bien avant, les premiers pillages qu'ils faisaient, c'était les livres pour les rapporter à Rome. Et donc, ce qu'ils ont fait aussi quand ils s'implantent sur Alexandrie, enfin sur l'Égypte, on pense qu'ils ont beaucoup pillé de livres qui étaient dans la bibliothèque pour les envoyer à Rome. Ils avaient eux-mêmes créé leur propre bibliothèque. C'était véritablement une référence, c'est-à-dire avoir le savoir, la connaissance, la créativité humaine et intellectuelle était fondamentale.
Donc une décentralisation qui va contre l'idée initiale de rassemblement de tous les savoirs du monde.
Voilà, il y a une dispersion là. Mais les Romains n'ont pas détruit ce qui restait de la bibliothèque, puisqu'on parle de bibliothécaires encore au 1er siècle de notre ère.
Alors, sont-elles passées, cet effacement progressif et cette...
Alors, en fait, on pense, c'est à l'époque de... Lorsque la reine Zénobie, en 272, je crois...
La reine de Palmyre, fameuse.
La reine de Palmyre vient à la conquête...
Cher à Maurice Sarre, d'ailleurs, quand on a fait la biographie.
Essaye de conquérir l'Égypte et en particulier Alexandrie. Il y a, à ce moment-là, énormément de destructions qui sont faites, qui ont détruit beaucoup de la ville, et en particulier toute cette partie des palais royaux et de la bibliothèque, parce qu'il faut bien se souvenir en fait que les palais royaux, la bibliothèque était dans le prolongement des palais royaux, et donc il y a eu à ce moment-là beaucoup de combats autour de ces bâtiments qui ont subi des dégâts fondamentaux et qui ont fini par progressivement disparaître ou en fait être anéantis. Et on pense que c'est véritablement à ce moment-là que disparaît, en tout cas en tant que bâtiment, le musée et sa bibliothèque.
On constate néanmoins, vous le rappelez dans votre ouvrage, que l'historien célèbre de l'Antiquité, Ammien Marcellin, qui a vécu au IVe siècle de notre ère, brosse un portrait qui est très vivant de la vie intellectuelle encore à ce moment-là. Et il écrit « Dans cette ville, les diverses branches du savoir se font entendre, car les maîtres des arts sont encore vivants. » On est loin après le mythe de l'incendie général. « La baguette du géomètre révèle des connaissances cachées. L'étude de la musique n'est pas encore complètement desséchée. » Pas encore, mais ça dure. « L'harmonie n'a pas été réduite au silence et quelques-uns entretiennent encore les feux de l'étude du mouvement de la Terre et des étoiles, etc. »
Bien sûr, il y avait encore des grands savants, il y a eu cette femme extraordinaire, grande mathématicienne, Hypatie, au IVe siècle, qui était véritablement une femme de science et qui défendait la raison avant la foi, avant la religion. Et effectivement, c'est ce qui a causé sa perte et son massacre par les chrétiens.
N'empêche que quand au 19e siècle on arrive à Alexandrie, c'est un long gémissement des voyageurs sur le déclin de la ville. Chateaubriand parlait du lieu le plus triste de la terre.
Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Alexandrie, lorsque les Arabes arrivent au 7e siècle en Égypte et sur Alexandrie, ce qui est intéressant de savoir, c'est d'abord que la bibliothèque n'existe plus. Donc on ne peut pas reprocher aux Arabes d'avoir détruit la bibliothèque. Contrairement au grand mythe, encore une fois, ce sont les Arabes qui ont sauvé les textes grecs que les chrétiens n'avaient pas fini de détruire, puisque ce sont les premiers chrétiens quand même qui détruisent, en arrivant et en se développant sur l'Alexandrie, tout ce qui rappelle le monde, ce qu'ils considèrent comme le monde païen.
Aristote passe aussi par Averroès jusqu'à nous.
Tout à fait.
Il y a une thèse que vous développez, que je trouve stimulante dans votre livre, Claudine Le Tourneur, disons, c'est l'idée qu'au fond, le monothéisme était voué à faire litière de cette ambition universelle.
C'est-à-dire que le monothéisme, si je reprenais une phrase de Noah Harari dans son livre Sapiens, c'est que pour lui, le monothéisme est la pire invention humaine. Enfin, c'est une forme d'intolérance qui a eu des répercussions tragique sur l'ensemble du monde.
Et par exemple, que si la Bible contient la vérité, toutes les autres affirmations prétendues doivent être effacées.
Oui, à partir du moment où les chrétiens considèrent que la Bible contient toutes les vérités du monde, le reste n'a aucune importance. Donc effectivement, ce sont les chrétiens qui ont fait les plus grands massacres de temples égyptiens. Ils ont martelé les textes hiéroglyphiques sur les temples, ils ont brisé les statues, et ils ont mis le feu à la bibliothèque fille, puisque cette bibliothèque ne renfermait que des textes qu'ils considéraient comme païens. Tout ça s'est passé autour du 3e, 4e siècle de notre ère, et la bibliothèque fille a été brûlée, on pense, en 372 ou 92 exactement. Donc il massacre cette grande mathématicienne parce qu'elle refuse la foi et préfère la raison, et qu'en plus elle est une femme. Et que ça, c'était aussi, à l'époque, quelque chose de très, à la limite, répréhensible, d'être une femme intelligente, mathématicienne, et qui ne voulait pas adhérer à la foi commune.
Ensuite, avec les Arabes, qui est aussi une autre religion monothéiste, l'islam naturellement, est-ce que les effets sont aussi délétères ?
Non, pas du tout. Je défends dans mon livre l'idée que la civilisation musulmane, pendant 4-5 siècles, je dirais du 7e jusqu'au 11e siècle, a été une civilisation extraordinaire. Il y a eu vraiment beaucoup de créativité. Il y a eu tous ces grands savants comme Averroès, Avicenne, El-Khwarizmi, Al-Burani, je peux pas citer tous.
Mais je crois que c'est une vérité déjà aujourd'hui assez largement partagée.
Oui, je me suis rendu compte en discutant avec des étudiants à la bibliothèque d'Alexandrie où j'étais il y a 10 jours, qu'il y a encore des étudiants égyptiens qui sont persuadés que ce sont eux, les Arabes, qui ont tout détruit. Et quand je leur disais que c'était, ben non, que eux, au contraire, ont tout ressuscité, ils étaient très surpris.
Alors on peut dire un mot de cette bibliothèque qui a été relancée, bibliothèque Alexandrina, nous en avons dit un mot tout à l'heure, mais qui a été relancée à partir des années 1990 et qui a été inaugurée en 2002, sous l'autorité notamment d'un remarquable personnage qui s'appelait Ismail Serraj el-Din. J'ai eu l'occasion de le voir sur place. C'est un rebond qui vous paraît fidèle ?
Alors moi, j'ai été il y a quelques jours, mais j'y étais aussi le jour de l'inauguration en 2002. À ce moment-là, j'ai fait la connaissance de celui qui est considéré comme un des pères de la bibliothèque et qui est toujours en vie aujourd'hui, qui s'appelle Moshe Nzaran, et qui a bataillé pendant 40 ans pour que cette bibliothèque renaisse.
Écrivant son nom avec respect à côté de celui de Serraj el-Din, qui a
absolument
vraiment donné vie à cette bibliothèque. Je le précise d'ailleurs sous le regard d'une despote éclairée qui était Madame Moubarak. Oui. Ce qui rappelait tout à fait Catherine II, qui était protégée la bibliothèque tout en aimant assez l'encens qui montait jusqu'à elle.
Oui, c'est sûr. Absolument, vous avez raison. Mais donc, il faut rendre hommage aussi donc à ces deux grands hommes, à celui qui a été le directeur de la bibliothèque pendant pas mal d'années après la construction de la bibliothèque.
Jusqu'à la chute de Moubarak, oui.
Voilà, et jusqu'à la chute de Moubarak, et à celui qui a porté le projet pendant des années, et qui s'appelle Motion Zaran, et que j'ai eu la chance de revoir à Alexandrie au cours de mes différentes visites quand je travaillais sur ce livre. Et c'est vrai que cette bibliothèque a redonné vie à la cité d'Alexandrie.
Un très beau monument, avec sous forme de disque, que ce sont des architectes norvégiens qui l'ont bâti.
Oui, c'était leur premier projet. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Parmi tous les projets qui ont été proposés, il y a 83 pays qui ont participé. Eh bien, c'est Motion Zaran, justement, qui a beaucoup insisté pour que ce soit ce jeune cabinet norvégien. C'était leur premier projet. Ils ont remporté ce concours et ils ont fait une architecture fabuleuse. Extrêmement empreinte de références à l'architecture pharaonique ancienne.
C'est ça qui est touchant, ce rebond, cette sorte de rime avec le passé, qui nous convient assez bien d'ailleurs dans le cadre de cette émission. Alors un dernier mot, où je rejoins votre réflexion sur l'actualité possible sous une forme différente de cette ambition à l'universalité. Vous citez comme épigraphe, toujours attentif aux épigraphes que les auteurs ont inscrites dans leur page. Vous citez le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, imaginez un monde dans lequel chaque personne, où qu'elle soit, dispose d'un libre accès à la somme de tout le savoir humain. Et puis une autre citation qui est de Gaston Bachelard, le paradis, à n'en pas douter, n'est qu'une immense bibliothèque. Ça, j'aime assez. Le paradis, à n'en pas douter, n'est qu'une immense bibliothèque.
Moi aussi, j'aimais beaucoup cette phrase.
Donc aujourd'hui, vous trouvez que c'est un roman. Évidemment, c'est dispersé, c'est plus concentré dans un seul espace. Mais on peut dire qu'on retrouve cette communauté potentiel de la science, de la connaissance, accessible aussi à un large public.
Oui, mais d'une manière un peu différente. Effectivement, on le retrouve. Il suffit effectivement d'ouvrir son ordinateur et d'aller sur ChatGPT ou Google ou Wikipédia pour retrouver des savoirs. Mais le problème aujourd'hui, c'est que toutes ces mémoires, cette intelligence artificielle, tous ces algorithmes sont gérés par des oligarques qui font une sélection du savoir. On le voit aujourd'hui combien l'histoire dans certains pays est déformée et combien le fait de simplement s'abreuver à une intelligence artificielle tue un peu l'esprit humain, tue la mémoire, la rêverie, l'imaginaire, puisque c'est tellement facile. On ne se donne plus la peine d'ouvrir un livre et d'être attentif à la lecture. Ça demande beaucoup d'efforts de lire et d'ouvrir des livres et d'aller jusqu'au bout, alors qu'effectivement, en un clic, on peut avoir tellement de...
Oui, mais au moins, on accédait, selon le rêve des fondateurs, on peut accéder à tous les pouvoirs, tout dépend ce qu'on en fait et ce qu'on vous propose. Enfin, je comprends que vous préférez votre Ptolémée à Elon Musk, on peut résumer ça comme ça?
Un peu, oui.
Merci beaucoup, Claudine Letourneur. Disons, votre livre sur lequel nous avons fondé notre conversation s'appelle « La bibliothèque d'Alexandrie, la première intelligence du monde », publié aux éditions du CERF. Toujours sur l'Égypte, vous êtes intéressé beaucoup à Christiane Desroches-Noblecourt. Vous avez publié un livre sous le titre « Les Immortels ». Vous évoquez la manière dont elle a sauvé, elle a contribué avec d'autres à sauver les temples de Nubie. C'est déjà aux éditions du CERF que vous avez publié cet ouvrage en 2023. C'est vraiment une admiration pour vous
Christiane Desroches-Noblecourt était mon professeur d'égyptologie à l'école du Louvre, donc c'est une femme que j'ai connue. Et en fait, j'ai d'abord écrit sa biographie en 2022, et en écrivant sa biographie, je me suis rendu compte à quel point elle avait eu un impact colossal sur l'Égypte et sur la préservation du patrimoine égyptien, en sauvant, en fait, en initiant le sauvetage des temples de Nubie à l'époque où Nasser, en arrivant au pouvoir en 54, décide de construire son grand barrage pour développer le pays et l'industrialiser. Et est la première et la seule à ce moment-là à s'insurger en disant « Mais non, on ne peut pas laisser ce barrage avec son lac de 500 km qui va inonder toute la Nubie et faire disparaître, entre autres, Abou Simbel, les deux temples d'Abou Simbel. »
Eh bien, nous allons faire de Christiane Desroches-Noblecourt la discrète marraine de notre émission, dont le parrain sera Jean-Yves Empereur, que je célébrais tout à l'heure, qui a publié en particulier, entre autres, deux excellents petits ouvrages très didactique de la collection Découverte chez Gallimard en 2001 et en 1998, Le phare d'Alexandrie, La merveille retrouvée, et puis Alexandrie, hier et demain, paru en 2001. J'en rends aussi hommage à Daniel Rondeau, qui avait publié un livre très utile sur Alexandrie, plus ancien, aux éditions Nil en 1997. Vous pourrez trouver naturellement une bibliographie plus complète sur notre site avec les autres ouvrages dont vous êtes l'autrice. Claudine Letourneur, disons merci d'être venue à ce micro.
Merci à vous de m'avoir reçue.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Julien Calvas à la prise de son, Keating Wang à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon.